France Culture.
Pour le reste, je ne suis pas un homme désespéré, mais un homme qui lutte pour une cause désespérée. Jacques Mesrine n'est pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui reçoit ce soir le romancier Benjamin Dierstein pour Bleu, Blanc, Rouge, 800 pages crépitantes et barbelées pour un thriller politique haute énergie, consacré à la fin des années 70, ce premier volet d'une trilogie où se croisent vieux grognards et gardes montantes de la police française, mercenaires affairistes et soldats perdus de l'Algérie française, DJ du Palace et Call Girl International, Giscard, Pierre Goldman, Bokassa et Jacques Mesrine. Chronique en second temps d'émission signée Paloma Hidalgo et Hubert Prolongeau. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mauvais genre thriller, mauvais genre polar, mauvais genre histoire de France ce soir, puisque nous avons le grand plaisir de recevoir Benjamin Dierstein. Bonsoir Benjamin Dierstein.
Bonsoir.
Bienvenue à mauvais genre. La dernière fois c'était en
2021
et c'était pour...
Un dernier ballon pour la route.
Nous étions à l'époque dans les bureaux des arènes pour enregistrer cet entretien. Hubert Prolongeau, bonsoir.
C'est ça, bonsoir.
Et là c'était une histoire de bras cassés, héroïque.
De polar assez étonnant et voilà, on sentait plein de choses qui pouvaient encore aller plus loin, et Bleu, Blanc, Rouge va encore plus loin et un vrai livre assez incroyable.
Voilà, on a enfin le grand thriller historique sur la fin des années 70, le début des années 80, les années Giscard, avec le cortège extraordinaire d'affaires, d'aventures, de figures. On en parle ce soir donc dans l'émission. Présente également Paloma Hermine Hidalgo.
Bonsoir.
Alors, pour une fois, vous délaissez le territoire de la création et des beaux-arts pour vous intéresser à un sujet qui est très proche de celui traité par notre invité dans Bleu, Blanc, Rouge, qui est...
Une branche méconnue et ô combien sanglante du groupe terroriste Action Directe, la branche lyonnaise.
Voilà, et le livre, c'est...
Les oubliés d'Action Directe, de Richard Chitley.
Et c'est aux éditions...
La manufacture de livres.
Très bien, ben on en parlera avec notre invité en fin d'émission. Pour l'heure, eh bien, déployons les trois couleurs, bleu, blanc, rouge, et l'actualité qui va avec.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. 4 morts et 6 blessés après l'action d'un commando de terroristes qui a ouvert le feu à Orly sur des passagers de la compagnie israélienne El Al. Il était 15h40 cet après-midi lorsqu'une fusillade a soudain éclaté dans la salle d'embarquement où se trouvaient rassemblés des passagers français en partance pour Israël. Les CRS sont immédiatement intervenus armes au poing. Un violent échange de coups de feu s'est alors produit entre les membres du commando et les forces de l'ordre. 3 terroristes ont été abattus. Avant de faire le point de la situation, voici d'abord le témoignage de l'un des passagers qui a assisté à cette très violente fusillade.
J'allais passer pour la fouille. Le gars commence à me fouiller, mais j'entends, pas, je crois que c'est un feu d'artifice. Et je vois le mec l'inspecteur qui se met par terre. Alors je regarde et je vois, il y avait donc derrière nous, il y avait 3 CRS. Et il y avait un gars, un peu comme le film d'Antebé exactement, un gars avec une moustache assez brun, avec pantalon kaki.
Kaki.
Et il avait une mitraillette assez courte.
Et il tirait tac, 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 coup par coup comme ça. Il a tiré sur le policier qui se trouvait là, qui gardait les cartes, prenait les cartes.
Oui. Et vous avez vu tomber des victimes?
Vu les 2 premiers CRS là, qui sont tombés, enfin ceux qui étaient de la police et qui gardaient et qui prenaient les cartes pour les embarquements.
Attentat 1978, Benjamin Dierstein.
Alors celui-là, non, je ne suis pas sûr. Vous me posez une colle parce que il y a eu plusieurs attentats à Orly. Il y a eu l'attentat de 83, mais qui était une bombe devant l'agence de voyage turque.
Absolument.
Alors celui-là, c'était juste avant, je crois, mais j'ai pas la date. En tout cas, il n'est pas traité dans le bouquin.
Ah bon, enfin, on en reparlera. Alors avec Bleu, Blanc, Rouge, donc, qui est le premier volet d'une trilogie, Hubert Prolongeau, on plonge dans cette actualité de la fin des années 70, époque du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, et puis toute cette époque avec effectivement à la fois crépitante, effervescente et en même temps très sanglante et très tragique.
Alors époque dont Benjamin Dierstein, vous révélez surtout les bas-fonds. En fait, j'ai eu l'impression qu'il y a, depuis quelques années, une certaine réévaluation, réhabilitation presque des années Giscard, que à l'époque mitterrandienne qui a suivi avait un peu occulté, comme la Renaissance, le Moyen-Âge, comme la Révolution, l'Ancien Régime, et que on s'était rendu compte qu'il y avait aussi des progrès sociaux, un rajeunissement réel, et il commençait à y avoir une espèce de relecture des années Giscard. Vous, c'est l'inverse, au contraire. Vous nous dépeignez ça comme une espèce de Marigot, où la guerre des polices sévit, où le terrorisme est très présent, où le président que vous baptisez ironiquement le monarque, magouille en Afrique, et où la société semble s'enfoncer au contraire dans une période assez noire. C'est ça votre vision des années Giscard? Quelle est la part de recherche historique, la part d'analyse, la part de roman pur?
Alors, j'ai pas envie d'être plus tendre avec Giscard qu'avec ses prédécesseurs ou avec ses successeurs, parce que c'est une trilogie, donc c'est le premier tome d'une trilogie, et après ça va parler des années Mitterrand, et je suis pas non plus plus tendre avec Mitterrand, et disons, j'avais envie de parler de cette époque-là parce que c'est une époque assez explosive. Le terme est bien choisi, mais il y a pas que les attentats, il y a aussi plein d'autres choses qui se sont passées à cette époque-là. Mais c'est tombé sur Giscard. Je veux dire, ça aurait pu tomber sur un autre. Pour moi, à partir du moment où on s'approche du pouvoir, on trouvera toujours des tas de choses à dire si on gratte un peu en dessous.
Et ce qui vous intéresse, c'est ça. Donc c'est vraiment le pouvoir, la manière dont il fonctionne, la manière dont il corrompt ou dont il est intrinsèquement corrupteur.
Exactement. Et c'est vrai que sous Giscard, il y a eu des progrès. Bon, il y a eu Simone Veil. Il y a eu des tas d'autres choses. Bon, après, je pense que c'est des choses que les socialistes auraient pu faire aussi. C'est même évident. Mais ça aurait pu être des socialistes au pouvoir. Je suis persuadé qu'à partir du moment où il y a un pouvoir en place qui contrôle un état policier, il peut se passer des tas de choses dont il est important de montrer les soubassements, on va dire.
Alors, Bleu, Blanc, Rouge, Benjamin Dierstein est le premier volet d'une trilogie. Vous aviez quel âge à l'époque de Giscard?
J'avais moins 5 ans.
Moins 5 ans.
Je suis né en 1983, donc j'ai absolument pas connu cette époque.
C'est précieux, ce qui n'est pas mon cas, ni celui d'Hubert. Paloma, vous avez connu la période giscardienne?
Officiellement, je suis né en 2018.
Voilà. Donc c'est une période que vous avez travaillée comme une période historique et non pas en mêlant, je dirais, éventuellement une expérience personnelle, des souvenirs intimes, familiaux ou professionnels avec des données historiques. Comment avez-vous travaillé? Parce que le livre est très ambitieux, il fait 800 pages. À la fin, il y a une bibliographie exhaustive qui mêle les travaux d'historiens, les témoignages directs, les évocations artistiques même, on peut dire la vision fictionnelle. Il y a ce qui est rare dans un roman, un index, où si on a une véritable addiction pour un des personnages, et Dieu sait que vos personnages sont extraordinairement addictifs, on peut les retrouver et on peut les suivre à la trace dans l'index. Alors comment les choses se sont-elles mises en place?
Alors déjà, pour revenir sur l'index des personnages, c'était pas tant pour avoir le plaisir de retrouver à quelle page on parle de tel ou tel personnage, c'était plus pour moi un outil. Moi qui ai une mémoire assez défaillante, je sais que quand je lis des pavés qui sont blindés de dizaines de personnages de type Elroy ou ce genre d'auteur, je me retrouve assez souvent à tomber sur un chapitre qui parle de tel personnage, et je sais que j'ai déjà entendu parler de ce personnage, je sais que je l'ai déjà vu avant, mais je sais plus où et je sais plus qui c'est. Et je me suis toujours dit que ça serait intéressant d'avoir un outil à la fin qui nous permettrait de voir à quelle page on a parlé de tel personnage, et là du coup c'est le cas, c'est ce qu'on a fait avec Flammarion dans Bleu, Blanc, Rouge. Si jamais voilà le lecteur est un peu paumé dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, ça lui permet de revenir un peu en avant sans devoir chercher dans les pages avant et de chercher absolument d'où venait ce personnage. Pour répondre maintenant à la question clairement, ça a été beaucoup de documentation. un an et demi à plein temps de pure documentation. J'ai commencé par me faire une biblio en commençant à lire quelques bouquins. Je me suis très vite retrouvé avec des dizaines et dizaines de titres. Au final, ma biblio, elle avoisine les 200 titres. J'ai fait pas mal de recherches aux archives nationales, aux archives de la préfecture de police, sur le site de l'INA, qui est de plus en plus complet aussi maintenant et qui est de plus en plus un super outil pour les auteurs et pour plein de gens. Et donc voilà, ça a été vraiment un an et demi de pure recherche, de travail, on va dire, de pur thésard à accumuler les idées, les choses dont j'avais envie de parler. Et puis après, ben voilà, l'idée c'est de faire un plan et d'essayer de sortir des choses de ce marasme et de dire bon, moi j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de mettre les choses en avant.
Vous avez rencontré des témoins aussi ?
Non.
Non, mais c'était volontaire de s'en tenir à un travail livret, c'est-à-dire déjà d'analyse et de plus qu'une enquête plus journalistique à base d'interviews.
C'est pas un documentaire, c'est une fiction. C'est mon point de vue sur une époque que j'ai jamais vécue. Donc voilà, il y a un vrai recul là-dessus, mais qui est pas forcément un recul objectif. C'est purement subjectif. C'est ma vision, moi, de ce qui aurait pu se passer à ces moments-là. J'avais pas envie de m'entourer de témoignages parce que je pense qu'à partir du moment où on commence à avoir des témoins, on va avoir une vision subjective voilà, de leur point de vue de ce qui s'est passé là. Et voilà, j'avais pas forcément envie de ça.
Alors, on est dans les années 78-79 et vous suivez plusieurs axes. Un des axes est évidemment la police nationale, mais alors vous donnez même l'organigramme extrêmement complexe de la police nationale, avec évidemment le souci d'incarner au plus fort les figures de policiers, ne pas en faire de simples agents de l'ordre un peu comme ça, transparents et dénaturés. C'est des personnages puissants, agressifs, violents, avec des éléments clairs, la guerre des polices d'une part, les polices officielles et les polices parallèles, c'est encore l'époque du sac. Qui, à mon avis, ne survivra pas aux années Mitterrand, n'est-ce pas ? Il y a cet élément-là. Il y a par ailleurs les mouvements comme Action Directe, les mouvements, je dirais, post-gauchistes, qui après, évidemment, passent dans le terrorisme, un portrait très fouillé du milieu des autonomes, et puis l'ennemi parisienne, et on pourrait dire aussi les milieux politiques, les milieux élyséens, les milieux de la diplomatie internationale. Donc, ça fait quand même toute une série d'axes extrêmement forts, puissants, qu'il faut arriver à entrelacer, à tresser, à tordre. Là, ça a dû être redoutable. Ben, tous ces gens se connaissent plus ou moins et, comme on dit, fricotent ensemble. Mais là, il y avait quand même, vu l'intensité que vous donniez à chacun, une nécessité de gérer les forces quand même.
J'avais envie de... Ouais, voilà. C'est pour ça aussi... Pourquoi j'ai choisi cette période-là, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une période qui fourmillait de plein de choses. Comme vous l'avez dit, il y a pas seulement le système policier de l'époque et pas seulement le terrorisme. Il y a aussi la nuit. Voilà, c'est les débuts du palace, des bains douches, etc. C'est le disco, c'est l'arrivée massive de la cocaïne en France. C'est la fin de des voyous à l'ancienne, les Zemmour, tanisant pas, etc. Donc voilà, c'est une époque que je trouve super intéressante parce que il y a plein de choses qui sont en train de se passer et surtout plein de choses qui sont en train de se terminer, qui arrivent à leur fin. Et donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça et forcément d'imbriquer les choses les unes avec les autres. Et c'est aussi une période, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de la police à cette époque-là, c'est parce que c'est une période où les flics étaient des stars.
Alors, il y a deux vedettes.
Il y avait Ottavioli et voilà. Broussard, qui étaient des mecs qui, à l'habitude, avaient l'époque de faire les unes de journaux en permanence. Pour quelqu'un de ma génération qui est né en 83, qui a jamais vécu ça, c'est assez fou de regarder, voilà, j'ai été aux archives nationales, relire les titres de presse de l'époque, et c'est assez fou la manière dont ils sont mis en avant. Ils sont vraiment mis en avant comme des personnages hyper positifs, qui chassent les méchants, et donc j'ai trouvé ça assez drôle de parler de ça.
Soufflet n'est pas joué, sauf au palace, bien sûr, lorsqu'il est question de fêter le 10e anniversaire de ce qui fut et reste encore un peu le temple de la nuit.
Ambiance surréaliste. Elle est de circonstance ce soir au palace, un des fleurons de la nuit parisienne dont la règle d'or est de cultiver un certain sens du délire. Il y a 10 ans maintenant qu'au fil des transformations architecturales, des fermetures et des réouvertures, on invente ici en permanence le sens de la fête, où chacun espère se faire remarquer, tout en observant du coin de l'œil les invités les plus prestigieux.
Moi je suis un noctambule, donc j'aime bien vivre la nuit, j'aime bien vivre au palace mes nuits notamment.
Fabrice Aymer, le nouveau grand prêtre de la nuit, dit qu'il vend un produit snob à un public populaire. Et il pourrait rajouter qu'il vend à un public snob un produit populaire, et ça marche. Chaque soir, près de 1500 personnes se bousculent pour parader. Chacun ici est star et devient star. Fini la crise et le quotidien des angoisses. C'est le monde de la fête. Pour certains, c'est la décadence. Pour d'autres, c'est le merveilleux. Un nouvel endroit nocturne est né, celui de la fête et de l'éphémère.
Hubert Prolonge. On a échappé à Born to be Alive. C'est déjà ça.
Faites attention.
On va pas être d'accord.
Est capable de
j'adore,
tout.
Moi.
Vous mélangez la fiction et la réalité. Par exemple, en journaliste un peu scolaire, je n'avais aucun souvenir de la fusillade à l'ambassade d'Irak. Donc je suis allé voir, effectivement, tout est vrai, le nom du flic qui est tué. Et quand arrive l'enlèvement du fils Castelbajac, je me suis dit, c'est pareil, j'en ai pas entendu parler, je vais aller voir aussi. Et là, je n'ai rien trouvé. Donc l'épisode, je suppose, est parfaitement fictif. À quel moment le romancier décide d'inventer des faits, d'autres de les raconter de manière extrêmement juste? Et qu'est-ce que vous a apporté cette liberté que vous a donné la fiction par rapport à ce qui aurait pu être une simple, entre guillemets, compte-rendu documentaire, comme l'a été le livre que vous citez, de Hamon et Rothman, Génération, pourquoi le romancier, à un moment, s'empare de ça et injecte de la fiction?
Juste pour dire quelque chose clairement, c'est que moi, je trouve ça hyper intéressant de décrire une époque et de décrire des faits réels avec des personnages réels, etc. Mais pour moi, c'est juste un décor, c'est juste un background. Ce qui m'intéresse, c'est de parler d'abord de créer une fiction avec des personnages qui vont avoir une évolution tragique, d'avoir du drame, de voilà. Et ça, ces choses-là, on peut pas forcément les trouver dans les faits réels. Donc là où les choses s'inventent, c'est là où on a besoin de créer une forme d'intrigue, des trajectoires de personnages, et là où il y a du vrai boulot en fait au final, c'est-à-dire que effectivement j'ai passé un an et demi à faire des recherches pour savoir de quelles affaires j'allais parler, de quels événements réels j'allais parler, quels personnages réels j'allais inclure dans le roman, mais là où il y a le vrai gros boulot, c'est les personnages fictifs et les événements fictifs.
Mais justement, vous introduisez l'exemple de Castelbajac, vous prenez des personnages ayant existé, une famille réelle, et vous l'introduisez dans la fiction avec un effet de brouillage.
Alors, c'est pas une famille réelle, hein. J'ai utilisé un nom qui existait
oui,
déjà.
Oui, mais non célèbre.
Mais c'est juste un nom qui voilà que des gens il y a des gens qui ont ce nom là, mais le personnage en question dans le roman n'est pas ce même personnage réel.
Oui, parce qu'il y a une sorte de double mouvement permanent dans votre écriture, dans votre livre, Benjamin Dierstein. D'un côté, il y a des personnages historiques, Ottavioli, Broussard, Mesrine, que vous tirez, comme Alexandre Dumas en son temps, vers la fiction. C'est-à-dire, faut les fictionnaliser, faut les faire bouger comme un personnage de fiction. Faut pas qu'ils aient l'air d'être une fiche sortie d'une documentation ou qu'ils aient l'air d'une figée. Donc, vous les tirez vers la fiction. Et puis, il y a des personnages de fiction. Je pense au Marco Paolini, là, le jeune flic, Jacky Yénard, dont on suit l'histoire depuis la sortie de l'école de police jusqu'à, ma foi, j'en dis pas plus, mais on voit toute leur évolution, qui sont des personnages de fiction, mais qui sont tellement intensément nourris d'événements, d'une substance historique, qui finissent par devenir des personnages historiques. Donc on est toujours à mi-chemin entre les deux, ce qui fait que c'est ce qui constitue même la force du roman, c'est qu'il n'y a pas véritablement de découpe entre les deux, ça fusionne.
Alors, je suis assez persuadé que pour faire un roman qui soit à la fois un peu historique avec, voilà, comme je l'ai fait, des événements réels en fond de scène et des personnages de premier plan, il faut, comme l'a fait Elroy, hein, c'est simple, hein, j'avoue que j'ai pas tout créé non plus cette méthode-là. C'est clairement la méthode Elroy.
On va en parler d'ailleurs.
C'est d'avoir des personnages de premier plan qui soient des personnages inventés, c'est-à-dire qui soient des petites mains qui soit sont manipulées par des personnages au-dessus, soit essayent de tracer leur petit chemin au travers de l'histoire, mais dans tous les cas sont les petites mains. Et j'aime bien le parallèle avec Dumas, parce que justement, mais il y a quelque chose que j'aime pas trop chez Dumas, c'est ce côté assez partisan.
Oui.
Et je pense que voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire dans ce roman-là, c'est d'essayer de montrer pas mal de choses différentes, de points de vue différentes. On suit voilà des gens qui vont être de gauche, des gens qui vont être de droite, des anciens faves de l'OAS. On suit des personnages assez différents. Ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'on puisse les trouver quand même un minimum attachant, même si c'est tous quand même un peu des enfoirés. Mais voilà, j'ai essayé de m'éloigner de ce côté du roman historique à la Dumas, qui est hyper partisan, comme si on regarde Les Trois Mousquetaires. Le roi, c'est génial, et puis Richelieu, c'est un salopard. Enfin, je trouve ça un peu facile, en fait, quoi. Moi, j'ai envie de dire que c'est tous des salopards. Enfin, ben.
Et vous? Cousteau sortit des perruques de son bureau et mima une danseuse de cabaret. Tout le monde éclata de rire. Blanche-Neige imita Marcel Lebrun, Dédé parodia Lucien Aimé Blanc, Starsky caricatura le commandant Proutot, passa les menottes à la Fédé et l'accrocha à la fenêtre. Le vieux passa 20 minutes à gueuler sans pouvoir boire un coup. Cousteau vida 3 verres de Ricard, cul sec, Blanche-Neige en but 4. Dédé sortit les fléchettes, ils punaisèrent des photos de Proutot et du cerveau trouvés dans des magazines et tirèrent chacun leur tour. Starsky mit toutes ses fléchettes dans la tête du commandant Proutot. Marco plaça toutes les siennes dans celle de Marcel Lebrun, Blanche-Neige vida à 4 verres de Ricard Cussec, Cousteau en but 5, Neige. Ils imitèrent Belmondo, ils pastichèrent Travolta, ils chantèrent Staying Alive et Le Fric, c'est chic. Blanche-Neige vomit dans une poubelle, Cousteau dégueula par la fenêtre. Marco sortit la photo de Geronimo qu'il avait toujours sur lui et l'afficha sur le mur entre Proutot et Lebrun. Broussard et la Fédé interrompirent leur discussion. Starsky et Dédé s'arrêtèrent de chanter, Cousteau et Blanche-Neige cessèrent de vomir. Dédé leva son verre et gueula à la santé de l'inspecteur Capella. Les rires se changèrent en larmes, les larmes se transformèrent en colère. Ils tirèrent un par un et placèrent systématiquement leurs fléchettes dans la cible. La photo était devenue méconnaissable. Starsky sortit son 357 Magnum, tira et fit un trou dans le mur. Tout le monde eut terriblement mal aux oreilles.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Un extrait donc de Bleu, Blanc, Rouge de notre invité de ce soir dans Mauvais Genre, Benjamin Dierstein, un livre paru chez Flammarion. Alors effectivement, là, on a une séance de défoulement festif.
De dégagement, on appelait ça.
De dégagement dans la police, puisque justement, alors on parlait d'Elroy, on va en reparler sur le plan de l'écriture, mais effectivement, pour Elroy, l'histoire est simple, les grands hommes n'existent pas. Si on y regarde d'un peu plus près, ils sont tous corrompus, maniaques, obsessionnels, un peu putrides. Les masses ne comptent pas, puisque ce sont tous les nigauds qu'on manipule, le grand troupeau qu'on fait aller d'un côté ou de l'autre. Entre les deux, ceux qui tiennent la vérité de l'histoire, c'est les hommes de l'ombre, et c'est les casseurs de bras. Et donc ça, c'est la grande leçon, je dirais, c'est la vision historique, historico-critique de l'histoire par Elroy. Et effectivement, vous avez, il faut le dire, avec un talent certain et une efficacité redoutable, appliquer la méthode elroyenne à l'histoire de France des années 78-79, puisque c'est exactement ce que l'on voit. Il y a une disqualification des grandes figures, Giscard, le monarque, qui est quand même, une vision quand même assez acide, Bokassa, n'en parlons pas, et puis à côté de cela, il y a peu d'effets de groupe, mais il y a l'univers des casseurs de bras et il y a l'univers des hommes de l'ombre. Donc c'est une vision de l'histoire que vous nous offrez.
Une vision. Voilà, ça c'est important parce que moi ce que j'aime c'est le point de vue subjectif et j'ai pas du tout envie d'annoncer que c'est ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse c'est de dire que c'est une vision purement subjective. Il y a quatre personnages principaux qui ont chacun leur trajectoire.
On peut citons-les.
Alors donc il y a Jacqueline Liénard qui est une jeune inspectrice fraîchement diplômée de l'école des inspecteurs. Et Marco Paolini qui sort de la même école des inspecteurs et qui tous les deux étaient en compétition pour avoir la place de premier de promo. Donc là, je me suis un peu amusé à faire du teen movie dans mon roman avec toujours beaucoup de compétition parce que c'est ça qui m'amuse. Depuis mes premiers bouquins, il y a toujours énormément de compète entre mes personnages. C'est mon côté au sport, ça. Donc, il y a ces deux personnages, voilà, qui sortent de l'école des inspecteurs et qui se détestent dès le début et qui veulent absolument avoir la première place de la promo pour pouvoir aller bosser chez Broussard, qui à l'époque est la star absolue de la police. Et au final, c'est Marco Paolini qui termine premier et qui aura la place. Et puis, Jacques Liénard qui va terminer au RG. Donc, ça, c'est deux des personnages. Il y en a deux
et
autres.
Et on l'appelle Lèche-Botte puisque c'est la filleule, donc.
Voilà, donc c'est
le directeur.
Et elle vit tout le sexisme ambiant et terrible de l'époque que j'ai voulu essayer de décrire un peu sans phare de tout simplement du machisme ambiant de qui existait dans la police à l'époque qui était particulièrement dur pour les femmes qui arrivaient à des postes à responsabilité parce que c'était l'époque des premières commissaires et de tout ça et qui se sont retrouvées confrontées tout simplement à une espèce de doxa de l'époque à se faire emmerder juste parce qu'elles étaient en jupon quoi.
Et c'est pour ça que vous avez choisi un personnage féminin aussi important, parce que dans un univers qui est quand même très viril, il y a elle qui est un personnage formidable et qui semble être porteuse de discours qui sont plus contemporains que l'époque à laquelle se passe l'histoire.
Oui, c'est un personnage plus progressiste, on va dire, que les autres. Mais parce que aussi elle a envie elle de voler de ses propres ailes et à l'image je pense des femmes de l'époque parce que c'est aussi 10 ans après 68 donc les théories de 68 commencent à rentrer dans la France tout simplement dans les valeurs de la France mais il y a encore énormément de blocages par rapport à tout ça donc Jackie elle incarne un peu tout ça à l'inverse Marco Paolini lui il incarne c'est un gaulliste pur jus qui a été élevé par des valeurs traditionnelles archi gaulliste archi chrétienne et lui il va se retrouver au contraire à perdre toutes ces idées-là parce qu'il va se confronter à la réalité du sac, ce genre de choses. À côté, on a donc les deux autres personnages. C'est Gourvennec qui est un espèce de tir au flanc, qui est un brigadier tir au flanc plus ou moins de gauche et qui va se retrouver à devoir infiltrer un groupe gauchiste plus ou moins proche d'Action Directe. On va s'en rendre compte après. Et puis, il y a Vautier, qui est un espèce de voyou de la République, qui, lui, en a marre de faire le garde du corps pour Bongo ou de faire le mercenaire et qui a décidé de gagner du pognon tranquillement en prenant la main sur la nuit à Paris et en montant la plus grosse discothèque.
D'ailleurs, vous citez nommément un personnage d'Elroy dans le roman qui est Pete Bondurant.
Voilà,
c'est et on peut dire que Vautier, c'est votre Pete Bondurant.
Tout à fait, ouais. En plus doux, je pense, mais...
En plus doux, oui. C'est pas dur.
Mais ouais, c'est pas dur, ouais. Non, mais j'avais envie de rendre hommage à Elroy, bien sûr, parce que c'est tellement, disons que j'ai été tellement influencé par l'écriture d'Elroy, la méthode Elroy, que il fallait quand même rendre un petit hommage. Et donc, effectivement, ce personnage-là, Vautier, à un moment, j'explique qu'il a travaillé avec un des personnages d'Elroy.
Est-ce que c'est écrasant, cette influence d'Elroy, ou est-ce que vous avez eu d'autres influences? Est-ce qu'il a fallu vous en dégager? Est-ce que par moment, il y a eu des réflexes d'imitation qui vous ont paru trop poussés?
Il y a des réflexes d'imitation sur, par exemple, sur les écoutes. sur le fait de faire des écoutes assez drôles. C'est exactement le système qu'il y a dans American Tabloid. Le fait que ça soit que chaque écoute, donc des espèces d'annexes au milieu du récit qui coupent les chapitres, qui sont en fait des espèces de petits sketchs. Souvent, c'est exactement ce qu'il y a dans American Tabloid, et je trouve ça tellement génial que j'avais envie de reprendre un peu ce système-là. L'influence, elle est à partir du moment où elle est assumée. Elle n'est pas si lourde que ça. Et puis, après, sur la structure, j'ai pas repris exactement la méthode Elroy, parce que Elroy... Alors, là où je suis le plus d'accord avec Elroy sur la manière d'utiliser la fiction, c'est sur la focalisation. Je suis quelqu'un qui vibre dans la littérature. Quand je lis un bouquin, je suis quelqu'un qui ait besoin que la prose soit focalisée, qu'on soit vraiment dans la tête d'un personnage et qu'on n'ait pas un narrateur omniscient qui se balade d'un personnage à un autre. Donc ça, je pense que pour moi, c'est la plus grosse leçon de mes pas d'Elroy et des tas d'écrivains et d'écrivaines ont cette logique-là d'écrire. Mais ce que fait Elroy, par exemple, c'est de passer systématiquement d'un personnage à un autre. Là, pour le coup, moi, je me suis plus inspiré de la structure de La griffe du chien de Don Winslow, qui se permet le fait de créer des sortes d'actes et au sein de chaque acte, de mettre certains personnages en avant. Et après, quand on passe à un autre acte, on met d'autres personnages en avant. Et on garde ce principe de focalisation, mais on sans devoir systématiquement avoir les mêmes personnages tout le temps de chapitre à chapitre. Ce qui permet d'avoir des respirations et de quitter, par exemple, un personnage pendant 300 pages. Et après, on va le retrouver avec tout ce qu'il a pu vivre pendant cette ellipse.
Tout est parti d'un document publié par le Canard Enchaîné, une photocopie de 4 lignes signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 73, Bokassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances. Alors la question posée aujourd'hui, d'abord par nos confrères, puis déjà un peu par le personnel politique est celle-ci. Monsieur Giscard d'Estaing a-t-il été en possession de ce cadeau présidentiel et dans ce cas, est-il resté en possession de ce cadeau? À l'Élysée, voici ce qu'on indique. Les échanges de cadeaux de caractère traditionnel, notamment lors des visites des membres du gouvernement dans les États étrangers, n'ont en aucun cas ni le caractère, ni la valeur. Le Canard Enchaîné parlait d'1 million de francs qui ont été mentionnés par certains organes de presse à propos du Centrafrique.
Toute la France vous interroge. C'est vrai ou c'est faux, les diamants, Giscard disant? Si c'est faux, qu'on le dise nettement. Si c'est vrai, bien sûr, c'est embarrassant.
Je ne vous cache pas que c'est désobligeant pour moi de répondre à des questions de cette nature, mais je peux vous dire que déjà, au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des œuvres de bienfaisance. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Et j'ajoute, méprisant.
Et j'ajoute méprisant. Alors oui, non, parce qu'il y a quand même une forte part de cette affaire des diamants dans votre roman, Benjamin Dierstein. D'abord, on voit qu'il ne s'agit pas de quelques diamants, mais d'une véritable collection. Enfin, c'est pléthore de diamants. Puis ça vous permet quand même de jeter un coup de phare extrêmement cru et violent sur la France-Afrique. Et René Journiac, le conseiller Afrique de Giscard, on voit très bien la manière dont effectivement le néocolonialisme agit avec des pouvoirs que l'on fait et que l'on défait selon les nécessités du moment, qui sont des nécessités privées, et tout cela en mobilisant bien sûr la force publique, les parachutistes ou les RG ou la DST. Ça c'est très étonnant. Et puis il y a quand même là, on peut dire, une vision du pouvoir qui est totalement mégalomane et paranoïaque. Il y a toute une scène où Valéry Giscard d'Estaing chasse en Afrique. Alors là, ça c'est totalement fastueux et presque très très proche de ce que pu être les chasses royales sous l'Ancien Régime. Et puis il y a la vision aussi de Bokassa avec toute espèce de faste impériale, mais évidemment très fragile. Donc vous êtes là aussi, comment vous avez travaillé cet aspect avec des témoignages, ou c'est une grosse part de fiction?
Non, c'est essentiellement de la documentation, mais il n'y a pas besoin de chercher très loin pour savoir ce qui s'est passé. Et puis les diamants, c'était un peu une cerise sur le gâteau, parce que en vrai, moi, ce que je trouve le plus le plus fou dans toute cette histoire de Giscard, c'est que ses cousins et ses frères possédaient des boîtes d'extraction d'uranium qui ont bénéficié de ce qu'on appelait des marchés publics au Centrafrique. Enfin voilà, c'est assez fou quand même ce qui se passait à l'époque. Je pense qu'encore aujourd'hui il se passe des trucs, mais dont on n'a pas la vision parce qu'on est trop à court terme. Là, ce qui est bien, c'est que moi, ça m'a permis de la vision à long terme, ça m'a permis d'aller chercher assez facilement tout ce qui a pu se passer. Mais voilà, on parle beaucoup des diamants, mais voilà, il y a tellement de choses beaucoup plus folles qui ont pu se passer que j'essaye de décrire un peu dans le roman et qui pour moi me choque plus le fait que voilà que toute la famille Giscard soit en train de prendre tout l'uranium du Centrafrique, ça me choque limite plus que les diamants quoi.
Hubert Prolongeau. La police est très présente et même un peu l'héroïne du livre, plus que les politiques, plus que... Est-ce que pour vous, le vrai pouvoir, en fait, il est là? Il est plus dans ceux qui restent, qui nettoient, qui font le sale ou le travail propre, c'est une question de point de vue, que les politiques qui, eux, passent et qui, dans le fond, viennent et s'en vont.
Je ne sais pas si le pouvoir est là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est eux qui font le boulot, quoi. Les relations entre Beauvau et l'Élysée, ou entre les différents administrés de Beauvau et les différents ministres de l'Intérieur, ont toujours été assez fortes. Enfin, ça montre un peu à quoi ressemble notre République. À partir des années de Gaulle, du SAC, sous Pompidou, etc., et encore sous Giscard, et après sous Mitterrand. Enfin, ça a toujours continué, cette histoire-là, et j'en ai parlé, moi, dans ma trilogie d'avant, La sirène qui fume, La défaite des idoles, La cour du mirage, tout ce qui s'est passé sous Sarkozy. Voilà, il y a toujours eu un pouvoir policier, quand même, à la botte du pouvoir, et j'ai trouvé ça intéressant d'essayer d'en raconter les arcanes sans forcément être partisan. On est obligé d'être un peu partisan là-dedans, puisque l'idée, c'est d'un peu de dénoncer, j'aime pas ce mot parce que ça paraît un peu facile, mais en tout cas de montrer à quoi ça pouvait ressembler, comment les policiers pouvaient être des chiens, et je parle de haut gradé, hein, je parle pas de petites mains, et comment faut être des chiens au service du pouvoir.
Il y a deux choses qui me paraissent relevées d'un regard un peu plus contemporain. Il y en a une, on en a parlé, c'est le personnage de Jacqueline Linard et tout le côté féministe qu'il y a derrière elle. Et il y en a un autre, c'est le refus total que vous avez à la fois de la mythologie des truands et de la mythologie du gauchisme. Le portrait que vous faites de Pierre Goldman, quand on voit le film, par exemple, excellent par ailleurs, qui est sorti l'an dernier, est totalement différent. Il n'y a aucune valorisation, il n'y a aucune admiration chez vous. Et les truands, c'est pareil, ils sont tous odieux. Il y en a un en particulier, c'est très drôle, dans les scènes d'écoute, qui est particulièrement crétin et à côté de la plaque en permanence. Vous tombez pas non plus dans ce qui à l'époque était assez fort, où au cinéma en particulier le samouraï, les gabineries de fin de carrière, tout ça portait une image du truand plutôt sympathique, et vous avez balayé tout ça. Est-ce que c'est un regard en fait d'aujourd'hui porté sur cette époque, ça?
Je ne sais pas si c'est un regard d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est une volonté de ne pas avoir un regard positif ou positiviste sur des personnages réels. J'ai beaucoup de mal avec les biopics, par exemple, qui donnent des visions complètement édulcorées de certains personnages
Mesrine,
réels.
Mesrine, par exemple.
Mais il y en a plein. Et je pense que d'ailleurs, ce qu'on a pu voir sur Mesrine, il y a eu des très bonnes choses, parce qu'on a... Les films ou les séries qu'on a pu voir sur Mesrine ou sur Carlos sont plutôt, moi, je trouve bien pensées, ce que j'ai pu en voir, enfin bien décrites. Mais non, je parle de d'autres choses, des biopics sur des hommes ou des femmes politiques. J'ai beaucoup de mal avec la logique, positive, où on nous sert une espèce de soupe. Lui a été comme ça, il a fait ça. Moi, j'ai plutôt envie de désinguer les idoles, quoi. Ça m'intéresse plus de montrer le côté négatif de tout le monde et peut-être à d'autres de faire le travail positif. Mais moi, j'ai aucune idole. J'aime pas l'idée de pouvoir idolâtrer des gens. Ce qui m'intéresse, c'est plus de montrer la face sombre.
C'était trop tard. Mesrine apostrophait déjà un petit vieux qui lisait le journal à une table voisine. « Ça parle de Mesrine ?» Le petit vieux leva la tête. « Non, mais ça devrait pas tarder. Pourquoi vous dites ça ? Il ne pourra pas cavaler éternellement. Broussard va finir par le trouver. Il paraît qu'il vient souvent dans le quartier. » Le petit vieux se marra. « Ça m'étonnerait. Pourquoi ça ? On l'aurait reconnu. Vous êtes sûr ?»« Sûr. Sa photo est à la télé et dans tous les journaux. S'il vient dans le quartier, je sais comment ça va finir. Comment ? J'irai prendre mon fusil chez moi et dès que j'aurai sa tête au bout de mon canon, je lui logerai 2 balles en pleine gueule pour qu'il s'arrête d'emmerder le monde. » Mesrine perdit aussitôt sa bonne humeur. Le petit vieux l'avait visiblement vexé. Il se pencha vers Gourve et Kowalski et se mit à chuchoter. « Si je m'écoutais, je lui mettrais une taloche pour lui apprendre les bonnes manières à ce con de vieux. » Illustration sonore, Laurent Polleret, bien évidemment. On parlait justement avec Hubert parlait de ce refus de la mythologie, mais c'est là aussi un des gains majeurs de l'influence de Elroy qui ne situe pas, je dirais, sa vision et son analyse au niveau de manière manichéenne, avec d'un côté une idéologie préférable à une autre, des bons sentiments ou des mauvais sentiments, mais dans une sorte d'énergie de base qui est l'énergie d'un moment historique et qui circule comme ça d'un milieu à l'autre. Que ce soit le milieu de la police secrète, la police, la gendarmerie, les autonomes, Action Directe, on a l'impression qu'il y a véritablement une sorte d'énergie globale qui circule et qui emplit absolument tout et qui se manifeste évidemment différemment selon les milieux et selon les individus. Benjamin Dierstein.
Ouais, mais moi je crois énormément au subjectif. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les doctrines, les pensées, le fait d'être de gauche, de droite, etc., parce que je vois toujours des espèces de positions qui en fait masquent énormément de choses très fausses. Et ce que j'avais envie dans ce bouquin, c'est de montrer des trajectoires de personnages qui viennent de milieux différents, qui vivent des histoires différentes, qui pensent différemment, et de montrer un peu le ressenti de chacun. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de focalisation. Ça, je trouve ça hyper important, moi, quand j'écris, en tout cas, au niveau du style, qu'on soit vraiment dans la tête des personnages, qu'on vive avec eux tout ce qu'ils ressentent. Et j'espère que quand j'écris, voilà, j'essaye de montrer qu'ils souffrent à tel moment ça pue, à tel moment ils voient telle chose, à tel moment ils sont en panique, à tel moment, enfin voilà, on essaye d'être vraiment au plus près des personnages. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des personnages qui souffrent, qui vivent des choses, et pas des personnages qui vont avoir des doctrines précises ou nous dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Ça, j'ai toujours essayé de désinguer ces choses-là, parce que je pense qu'il n'y a pas de vérité. Il y a juste des gens qui vivent des choses et qui, en fonction de leur culture, pensent telle ou telle chose et vivent telle ou telle chose.
Alors, il y a un des points les plus forts de ce roman, Benjamin Dierstein, c'est les dialogues. Vous avez vraiment un sens du dialogue comme ça rectiligne, violent, qui va d'un point à un autre avec un, ou toutes passer les portes comme ça les unes après les autres. Comment vous travaillez vos dialogues? Est-ce que vous les, est-ce qu'ils sont gueulés? Est-ce que comment il y a, parce qu'il y a véritablement une rythmique là. Il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de l'informatif ou du psychologique. Il y a un rythme du dialogue.
Ouais, c'est de la punchline. Après, c'est un peu inspiré de du rap ou de ce genre de choses. J'aime les dialogues très vivants. Je déteste quand un personnage va parler sur plus de 3 lignes, par exemple. Ça m'intéresse pas parce que j'ai l'impression qu'on perd le rythme. J'aime la question-réponse, le fait que ça soit blam, 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 créer une espèce de rythmique comme ça avec les dialogues. Il y a à la fois un côté formel que je trouve assez cool, qui est le côté mitraillette, en fait. Voilà, ça avoine tout le temps. Et puis il y a aussi, voilà, ce côté, comme je disais, influence un peu rap ou d'autres choses, la punchline, le fait que les personnages vont balancer telle phrase qui va dégommer l'adversaire. C'est de la compète, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que les personnages sont tous en compétition les uns avec les autres, donc c'est à celui qui aura la plus grande gueule pour rétamer l'autre.
Mais alors, vous n'avez pas connu cette époque. Est-ce que, en écrivant ce roman, vous avez pensé à ceux qui sont comme vous? Parce que, bon, moi, je l'ai connu, donc j'ai vibré un peu à l'unisson du roman, parce que immédiatement, j'avais des images télévisuelles, des souvenirs radiophoniques, des lectures de presse de l'époque. C'est quelque chose de très parlant, très intense. Mais ceux qui ne l'ont pas connu, est-ce que vous écrivez pour eux? Est-ce que ce roman est pour vous une manière aussi de faire acte d'historien, romancier, pour justement tous les lecteurs français qui sont à votre image?
Alors, acte d'historien, non, parce que j'ai aucune prétention à l'objectivité.
Enfin, je m'entends en disant.
Voilà, comme je disais juste avant, mais par contre, oui, j'espère que c'est largement lisible par des jeunes générations. Et je pense que même si le décor se passe effectivement en 78-79, je pense qu'au niveau du traitement, c'est quand même assez moderne. Il y a une écriture qui est
Il n'y a pas de pittoresque, il n'y a pas de clin d'œil, il n'y a pas de... Oui, c'est vrai.
Voilà, je n'aime pas trop les descriptions. Moi, je viens d'un milieu social où je pense on lisait pas Proust, ce genre de choses, et voilà, toute cette littérature avec beaucoup de mots, avec beaucoup de vocabulaire, avec des phrases à rallonge, moi m'a toujours emmerdé profondément.
Vous n'êtes pas le Proust du sac.
Non, voilà, loin de là. J'aime l'écriture assez incisive, assez explosive. J'aime quand ça envoie, quand ça dégomme. Et je pense que, j'espère en tout cas que c'est un roman qui est relativement facile à lire, même pour des jeunes générations. Tout simplement parce qu'il y a un rythme en fait qui permet de rentrer facilement dedans.
Est-ce que ça a été compliqué de recréer justement la mentalité des années 70, enfin fin des années 70, qui est proche de la nôtre, mais sans être tout à fait la même? Et là, il y a un décalage assez subtil, et en fait, ça va être plus facile d'aller recréer des choses en crinoline ou les croisades que une période proche, mais où en même temps, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de portable, les mentalités sont pas les mêmes, le machisme et l'homophobie font partie de choses parfaitement admises. Comment vous avez fait pour vous projeter là et la rendre avec cette justesse?
Déjà, pour moi, c'est une époque qui est pas si éloignée de ma jeunesse, parce que je suis né en 83, donc gamin, j'ai grandi avec les années 80, avec tout ce que je voyais à la télé, avec Coluche, avec plein de choses, avec Johnny, avec Balavoine, avec Sardou, et quand on écoute les paroles des musiciens, des chanteurs de l'époque, ou quand on regardait la télé, bon, finalement, c'est pas parce que j'étais pas né à cette époque-là que pour moi c'est une époque si lointaine. C'est sûr que je peux pas me permettre de me dire que j'ai compris cette époque-là, mais en tout cas, je me permets de créer des personnages qui ont vécu cette époque-là, dans le bouquin en tout cas, et qu'on voit à travers leur prisme. Mais je pense que mes personnages sont beaucoup plus modernes, effectivement, qu'ils sont peut-être un peu anachroniques, quoi, parce que forcément, ils ont été écrits par un mec qui est né en 83. Donc après, à chacun d'y voir le taux de réalisme là-dedans, mais il y a peut-être un peu d'anachronie, oui.
Dernière question, est-ce que effectivement vous avez, c'est un premier volet, il y a une trilogie, l'ensemble est conçu déjà, l'architecture est faite, quel est l'avenir de Bleu Blanc, est-ce que ça s'appellera aussi Bleu Blanc Rouge, d'ailleurs Benjamin Dierstein?
Alors à la base, je pensais écrire un seul tome. Et puis, quand en écrivant mon plan, quand mon plan a commencé à faire 400 pages, je me suis rendu compte que ça allait faire plutôt 2000 pages, donc j'ai décidé de partir sur un diptyque. Donc j'ai créé toute une structure pour un diptyque avec, on va dire, une espèce de structure à la Scorsese, c'est-à-dire up and down, avec un énorme climax en fin de tome 1 et puis ensuite tout qui s'écroule. Et puis en commençant à l'écrire, je me suis rendu compte que ça allait faire plutôt 2600, 2700 pages. Et donc là, je me suis dit que ça, je devais faire ça en 3 tomes. Donc au final, ça va être 3 tomes, avec donc un énorme climax qui sera en plein milieu du tome 2. Donc voilà, c'est une structure un peu spéciale, un peu différente, ça va être un peu original. Le tome 2 s'appellera L'étendard sanglant et levé, donc on restera sur les symboles républicains. Et le tome 3, 14 juillet, parce qu'il y aura plusieurs scènes qui se passeront le 14 juillet, et c'est à ce moment-là qu'on va résoudre plusieurs fils narratifs qui sont développés à partir du tome 1.
Dernier mot de votre roman, Benjamin Dierstein, Geronimo, je sais qui c'est. Qui c'est Geronimo ?
Ah bah ça, vous le saurez en lisant.
Non, mais j'entends bien, mais dans le premier tome, c'est un personnage qui véritablement obsède les enquêteurs.
Oui, on va dire que c'est le fil narratif principal. Alors, il y a plein de sous-fils narratifs, de sous-intrigues. Voilà, c'est beaucoup d'intrigues à tiroir. Mais il y a un fil narratif qui drive un peu tout le bouquin, qui est identifier Geronimo. Donc, Geronimo, c'est un trafiquant d'armes qui bosse à la fois pour le FPLP, à la fois pour les services secrets libyens. On ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a des billes chez les autonomes français, dans les brigades rouges, au FLNC, tout ça. Donc un peu tous ces mouvements révolutionnaires ou autonomistes qu'il y a à l'époque. Et puis il affole les services et toutes les polices de l'époque, tout simplement parce qu'il est au centre de tout ce qui se passe à ce moment-là.
Bleu, blanc, rouge de Benjamin Dierstein chez Flammarion, le thriller politique historique sur la fin des années 70 et les années Giscard, l'événement mauvais genre polar, bien évidemment, du moment. Chronique maintenant dans Mauvais Genre, mais on ne songe pas véritablement de sujet avec vous, donc Paloma Hidalgo.
En effet, Campon, Les Oubliés d'Action Directe, un ouvrage dense et documenté du journaliste Richard Chitli, qui ne se contente pas de retracer l'histoire du groupe terroriste, mais en interroge les strates les plus opaques. En explore une facette souvent éclipsée, la branche lyonnaise. Parce que l'histoire d'Action Directe, ce n'est pas seulement ces figures figées sur des avis de recherche, ces visages creusés, ces images d'arrestation en 87. Non, elle s'inscrit dans un archipel idéologique bien plus vaste. Celui de l'extrême-gauche post-68, où trotskisme, maoïsme, anarchisme, autonomisme s'affrontent, se recomposent, se radicalisent. Et dans ce bouillonnement émergent des groupes armés, inspirés des Brigades Rouges et de la Fraction Armée Rouge, qui inscrivent la violence dans leur praxis révolutionnaire. Or, en 82, Action Directe se scinde. La branche parisienne, souvenez-vous, anti-impérialiste, revendique notamment les assassinats du général Audran et de Georges Besse. Et la branche lyonnaise, qui, elle, nous intéresse ici sous l'égide d'André Olivier et articule son combat autour de l'anticapitalisme et de l'anticolonialisme. Entre 80 et 86, elle mène 30 attentats. 30 braquages. Bilan, 4 morts. Son mode opératoire, un noyau central ultra-disciplinaire, un fonctionnement en cellules compartimentées où l'anonymat des membres garantit la survie du groupe. En somme, un dispositif furtif conçus pour durer. Alors, Chitli retrace ici minutieusement leur trajectoire à travers archives judiciaires et témoignages, offrant une radioscopie précise des mécanismes de la clandestinité. Il éclaire des zones d'ombre essentielles. Comment s'organise la violence en réseau ? Comment se structure un groupe qui se pense en rupture radicale avec le politique ? Comment Action Directe hérite de la gauche prolétarienne, des autonomes, avant que la répression, l'effacement des soutiens et l'effritement des dogmes ne précipitent son isolement ? Plutôt qu'une relecture figée, téléologique, Chitli propose une dissection méthodique et pose cette question cardinale. À quel moment la radicalité cesse-t-elle d'être un projet pour devenir une mécanique close, un système autonome coupé du réel ? Et nous, aujourd'hui, que reste-t-il à en penser ? Du reste, chères auditrices, chers auditeurs, la violence est-elle l'échec du politique ? Ou bien l'instant où la subversion s'effondre sous le poids de ses propres absolus ? À vous de trancher ce soir, avec bien sûr toute la modération révolutionnaire qui s'impose. Les oubliés d'Action Directe de Richard Chitli paraît le 27 février 2025 aux éditions La Manufacture de Livres.
Merci Paloma, on passe maintenant au commissaire Prolongeau.
C'est ça, qui va vous parler de Deal. Deal qui est un livre que son auteur signe du seul chiffre 6. 6, je ne sais pas s'il y a un lien comme le fameux numéro de la série Le Prisonnier. Il y a aussi 666, effectivement. Alors, pourquoi cet anonymat? Le soupçon peut naître assez vite que l'auteur connaît tellement bien son sujet que le livre relèverait autant de l'autobiographie que du roman. Son éditeur, Nouveau Monde Édition, ne dément ni ne confirme et l'auteur refuse toute promotion audiovisuelle. À vous de conclure son implication dans ce qu'il raconte. Mais tout ceci n'est qu'anecdote tant il paraît évident, et en fait c'est ce qui nous intéresse ici, que 6 est un véritable écrivain. Deal, qui fait dans les 300 pages, nous fait entrer dans la tête d'un jeune revendeur de drogue, de shit, surtout dans les années 90, donc 10 ans après Bleu, Blanc, Rouge. C'est un tout petit trafiquant, pas Escobar, pas El Chapo, un sans-grade, une sorte de flambard de la drogue. Bien sûr, l'intérêt premier du livre est documentaire. Si jamais, cher François, votre retraite se révélait insuffisante et qu'un petit supplément vous était nécessaire pour maintenir le luxe de votre train de vie, vous trouverez là tous les éléments nécessaires à une reconversion. Mais la grande force du livre, au-delà de cette description, et dans la description d'une posture morale rarement décrite qui rappelle un peu, s'il fallait trouver un modèle, le junkie de William Burroughs. Six ne joue pas la victime, il rejette les excuses sociales, il sait ce qu'il fait, il sait que c'est une transgression. Le vrai propos du livre flirte avec la métaphysique. Qu'est-ce qu'un choix? Qu'est-ce que le libre arbitre? Comment mener sa vie? Le crime apparaît comme une manière de vivre, une suite d'actes qui rejettent l'éthique, et ce sont les discours dominants, tant ceux de l'excuse que ceux de la diabolisation, qui sont mis à mal. Donc, Deal de 6, qui est un premier livre assez remarquable. Et en deuxième, aux éditions Nouveau Monde.
Nouveau Monde.
Et en deuxième, je voudrais vous parler du nouveau polar social d'un auteur qui, lui, à l'inverse de Six, d'abord assume son nom et ensuite est plutôt bien identifié, Hervé Commer. Ce livre s'appelle Dernier cri. Le héros en est un ancien flic devenu suspect après l'assassinat d'une journaliste avec qui il a passé la nuit et qu'il retrouve morte. Comme quoi, il ne faut jamais passer sa nuit avec des journalistes. Je donne le conseil à tous ceux qui nous écoutent. Il lui faut alors, pour se disculper, trouver le meurtrier. Il reprend l'enquête de son éphémère maîtresse et plonge à Elbeuf dans l'univers des ouvriers pauvres du textile. Le roman est à la fois très habilement construit et il plonge dans un milieu exploité avec un peu la rage au cœur. En gros, intrigue habile, engagement à gauche, tout ce qu'on demande au polar social. Dernier cri de Hervé Commer qui, lui, est chez Fleuve.
Merci Paloma, merci Hubert, merci Benjamin Dierstein d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre pour Bleu, Blanc, Rouge.
Merci beaucoup
faites
pour l'invitation.
Lire, faites relire Bleu, Blanc, Rouge, c'est la première vision dévastatrice des années Giscard et c'est le premier volet d'une trilogie. Je signale également donc 6 de Deal de 6, cette audition Nouveau Monde, les oubliés donc d'Action Directe de Richard Chitli, ça paraît le 27 février, c'est aux éditions La Manufacture de Livres et Hervé Commer, Dernier cri, c'est aux éditions Fleuve Noir. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Noé Chabanne, Claire Poissignon, Paloma Hidalgo, Claire Martin-Dugard, Hubert Prolongeau et François Angelier vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je retrouve la semaine prochaine. Je serai avec Bernard Quirini pour son dernier recueil de contes fantastiques chez Rivage et Vincent Wackenheim pour son formidable livre sur les danses macabres européennes 18e, 20e siècle. Bonsoir à tous.